Boomerang avec la romancière américaine très francophile, mais personne ne le sait puisqu'elle déteste les entretiens et ne parle jamais. Elle est la romancière vivante qui a vendu le plus de livres au monde dans les 800 millions. Pour vous donner une idée, ses initiales, DS en lettres gothiques, s'il vous plaît, la redoutable. Danielle Steele est dans Boomerang, c'est un événement, c'est parti. Quel est votre fétiche, c'est-à-dire votre objet totem, auquel vous vouez une admiration et un respect sans nom, auquel vous attribuez un pouvoir magique, protecteur, bénéfique, mais qui vous excite aussi, parce que la psychanalyse est passée par là, et qu'un objet peut aussi provoquer du désir. Allez, on se fait une petite liste de fétiches. L'objet, ou la forme plutôt ronde, par exemple, ça se joue au toucher. La matière, le cuir, c'est un fétiche commun, comme le latex ou le caoutchouc. Le vêtement, depuis le talon de la chaussure jusqu'à la boucle de ceinture. L'amour sous toutes ses formes, de la plus douce à la plus sévère, le nombre, 1, 2, 3 ou plus, qui sait, on n'est pas là pour juger, le pied, le poil, le sein, les doigts de la main, les yeux aussi, ou plutôt le regard, qu'on se laisse regarder, qu'on s'exhibe, ou qu'on regarde, plus ou moins discrètement, le jeu aussi, ou plutôt le rôle que l'on joue, plus ou moins bien d'ailleurs, mais ce qui compte c'est de le jouer, quand un instant seulement, par un geste, un déguisement, un mot, un instant interdit, on est quelqu'un d'autre, le mot enfin, c'est le plus beau des fétiches, celui qui déborde, qui trébuche, qui transgresse, celui qui subvertit. Si ça se trouve, je me suis trahi, mais vous surtout, quel est votre fétiche ?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. À quel genre de fétichisme se prête mon invité d'aujourd'hui ? En une quarantaine d'années, plus d'une centaine de romans et près d'un milliard d'exemplaires de ses livres vendus. Elle est de loin la romancière vivante la plus lue dans le monde. Son nouveau livre, Plus que parfait, vient de paraître. Elle en écrit 3 ou 4 par an. Et si elle ne parle jamais, elle a accepté de venir nous rencontrer dans Boomerang. Bonjour, Danielle Steele.
Bonjour, Augustin.
Avant toute chose, quel est votre fétiche, à vous ?
Je dirais peut-être des chaussures. J'adore des chaussures.
Est-ce qu'une chaussure ou une paire de chaussures vaut votre machine à écrire, Danielle Steele ?
Ah non, non, la machine à écrire, ça c'est sacré.
Vous ne pourriez pas vous en passer ?
Non, non.
L'attachement sentimental, fusionnel, quasi sensuel à un objet, comment est-ce que vous l'expliquez, vous, ça ?
C'est pas fusionnel. Je trouve toujours l'amour fusionnel très dangereux. J'ai eu quelqu'un dans ma vie à un moment donné qui insistait qu'on était fusionnel. Je trouvais ça terrifiant.
Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous en êtes séparés, du coup ?
Oui, éventuellement. On était moins fusionnel qu'il pensait.
Mais à un objet, l'attachement à la machine à écrire ?
Oui, parfois c'est une question de superstition ou d'habitude. Et j'ai l'habitude de travailler sur cette machine.
C'est une Olympia, c'est ça ?
Oui, c'est une Olympia que j'adore. Et sur cette machine-là, j'ai écrit presque tous mes livres. Je l'ai acheté vintage pour $20 et c'était un très très bon investissement. J'ai acheté en même temps la chaise pour aller avec. J'ai payé pour la chaise $10 et ça c'était moins bien, ça durait moins longtemps.
Comment est-ce que vous la définiriez, cette machine Olympia ? Est-ce qu'elle est robuste, fidèle ?
Fidèle, elle est un peu caractérielle, mais...
Et comment ça se manifeste ?
De temps en temps, elle s'arrête, elle se coince quelque part, et là je panique, et 10 minutes après ça va, ou une demi-heure après.
Et pourquoi une Olympia plutôt qu'une Remington ou une Underwood, ce qui aurait fait de vous peut-être une Agatha Christie ou une Orson Welles ?
Oui, ben voilà, mais non, c'est la machine qu'ils avaient dans le magasin de choses d'occasion. Et finalement, c'était un très bon choix parce que j'ai découvert, après j'ai fait quelques recherches, cette machine-là est de 1946 et elles sont faites en partie à la main.
Ça vous ressemble bien, l'écrivain et sa main.
Ouais.
Combien de vies, combien d'histoires d'amour est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu en fin de compte avec cette machine à écrire, Danielle Steele ?
De très nombreuses histoires. Pas seulement d'amour avec cette machine, mais elle m'aide à animer les caractères, les personnages pour qu'ils deviennent réels et vrais pour moi.
Pour autant, quand on passe ses journées à travailler, à écrire, est-ce qu'il reste encore du temps pour la vie ?
Non. Réponse très courte et très sincère. Quand on travaille autant que moi, on n'a aucune vie.
À moins que vous vous sentiez vivante quand vous écrivez ?
Oui, c'est ça. Je vis à travers mes livres.
Au fond, à quel moment est-ce que vous êtes sérieusement mise à l'écriture, Danielle Steele ?
Plus ou moins à 19 ans. Et c'est là où j'ai écrit le premier livre et qui a été vendu immédiatement. Il y a eu un petit moment pour trouver un agent. Le premier agent que j'ai vu m'a dit que j'avais aucun talent et que je devrais apprendre à faire la cuisine ou chose de plus utile.
Grand visionnaire.
Ouais. Et finalement, longtemps après, il a dit non, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu.
Oui. Enfin, c'était la seule façon de s'en sortir.
Oui, exactement.
Il disait les choses clairement. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'écrire, ce besoin?
Bon, j'écrivais, j'ai toujours écrit dans ma jeunesse des poèmes. J'étais plutôt dirigée vers l'art et le design. Et j'ai fait, en plus de l'université, une école très célèbre de design aux États-Unis. Et j'étais plutôt artistique. Mais jamais écrire comme ça pour le plaisir. Et je faisais des articles pour un magazine et l'éditeur du magazine était très très gentil. Il m'a dit, vous avez du talent, vous devriez écrire. Alors, étant très jeune, je me suis dit, ok, je vais l'essayer. J'ai écrit un livre et j'ai vraiment aimé. Et le premier livre a été vendu tout de suite. Mais les 5 livres après n'ont pas été vendus et personne ne les a achetés. Ils vivent toujours dans mon grenier quelque part. Et là, je me suis dit, ben, je ne vais pas continuer, mais j'aimais tellement écrire à ce moment-là que je continuais à écrire quand même.
Vous n'êtes jamais arrêté, en fait?
Non, et finalement, le 7e livre a été vendu, et là, ça a démarré toute ma carrière.
Et en quoi, avec les années, Danielle Steele, vous avez l'impression de vous être améliorée, d'avoir progressé?
Ben, j'espère, quand même.
Ça tient à quoi, ça?
Well, d'abord, l'expérience à écrire énormément de livres. J'en ai écrit en ce moment 185.
Oh, Danielle.
Si j'avais rien appris, ce serait vraiment triste.
Et comment vous le mesurez, ce progrès?
Non, et c'est une question d'âge aussi. Vous êtes sûrement plus intelligente que vous étiez à 18 ans. On est tous, alors.
Je suis pas sûre, parfois.
Moi non plus pour moi, mais quand même, on apprend des choses de la vie qui s'expriment dans les livres.
C'est l'émotion, c'est l'intensité. Ce sont aussi des tournures de phrases.
Oui, en partie, mais aussi, pour être écrivain, il faut observer. Et à force de lire d'autres choses, de vivre autre chose, d'écrire beaucoup de choses, on change, on s'améliore.
Il arrive qu'un livre naisse d'une simple observation?
Oui. Si on me raconte quelque chose ou si je vois une situation qui m'intéresse, là c'est... Ou quelque chose dans les actualités, ça vient, je ne sais jamais d'où ça vient. Ça me tombe du ciel.
Danielle Steele, pourquoi vous êtes si rare dans les médias? Pourquoi on vous entend jamais?
Parce que je suis extrêmement timide. Et à part ça, je suis toujours en train de travailler et je préfère être très privée dans ma vie. Quand mes enfants étaient jeunes, il n'y avait pas question que je fasse des interviews. Et je voulais qu'eux, ils aient une vie normale et moi aussi. Mais dernièrement, le monde est tellement ouvert avec l'Internet et Instagram et tout ça que je me force à être un peu plus visible. Mais j'ai toujours été très invisible.
C'est-à-dire que vous n'aimez pas qu'on vous embête?
C'est pas tellement qu'on m'embête, mais surtout que je suis très privée et je suis en effet malheureusement très timide.
I'm here with the most incredible woman. Please give a warm welcome to the legendary Danielle Steele.
And now, best-selling romance author Danielle Steele.
Danielle Steele.
Please welcome back Danielle Steele.
Danielle Steele.
The second most powerful female author in the world.
This prolific author has sold more than 500 million copies of her books.
Danielle Steele with us.
Si Danielle Steele est la romancière la plus lue au monde, c'est que vous êtes toutes ses héroïnes.
Elle nous donne une force incroyable grâce à ses livres.
Elle nous fait rêver.
C'est la première fois qu'un roman me touche à ce point.
Colocataire, le nouveau roman de Danielle Steele vient de paraître. Suite à une rupture sentimentale, Francesca accueille 3 colocataires dans sa maison de New York. Face aux épreuves de la vie, les colocataires s'unissent comme une vraie famille.
From internationally acclaimed author Danielle Steele comes a dazzling new adaptation of her triumphant best-selling novel. It's Danielle Steele's Fine Things.
Je m'appelle Danielle Steele.
Retrouvez dès maintenant la collection Danielle Steele enfin en DVD chez votre marchand de journaux.
Bienvenue.
L'adaptation de ses meilleurs ouvrages servie par un casting de rêve. La collection Danielle Steele, le numéro 1, le DVD et son fascicule, un parfait inconnu. 4,90€ seulement chez votre marchand de journaux.
Daniel Steele, invité exceptionnel de Boomerang. Vous vous souvenez de tous vos livres, Daniel ?
Non. Absolument pas. En général, si c'est pas trop trop loin, si je me secoue un peu, je m'en rappelle. Mais les gens souvent m'arrêtent dans la rue. « Oh, j'ai adoré ce livre. » Je me rappelle plus du titre, mais quand Jean a dit à Marie, qui a dit à Joseph, qui a dit à machin, aucune idée de quoi il parle. Et souvent, parce que il y a quand même un très grand délai avec les livres. Alors, je les ai créés et ils sortent en Amérique, par exemple, 2 ou 3 ans après. Et c'est encore plus loin ici à cause
des traductions. Mais c'est-à-dire qu'entre-temps, vous en avez déjà écrit 12.
Exactement. Oui. Et alors, j'ai toujours le dernier livre en tête, plutôt que les autres.
Mais Daniel, quand on vous confronte dans la rue et qu'on vous dit « J'ai adoré ce livre, qu'est-ce que vous faites ? » Vous faites semblant de vous souvenir ?
Oui, absolument. Non seulement ça, mais je fais semblant de me souvenir des gens, parce que souvent, ils me disent « Ah !» Mon cousin avait une amie qui avait un chien, qui avait un voisin, qui vous a rencontré, vous vous rappelez ? Ah, absolument. C'est dur de se rappeler de tout.
C'est une angoisse d'oublier ?
Non, pas encore, ça viendra.
Je vais vous raviver la mémoire plus que parfait. C'est l'histoire d'une famille new-yorkaise qui déménage à San Francisco.
Je me rappelle d'eux.
Dans un manoir du début du siècle dernier, c'est un livre dans lequel j'ai le sentiment que vous vous interrogez sur ce qu'est une maison. Home, en anglais. Chez soi, qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire le chez soi ?
C'est très important pour moi. C'est mon nid, c'est là où je passe la plupart de mon temps, c'est là où je me réfugie du monde. Ah, c'est très important, mais j'ai toujours vécu dans de très vieilles maisons. J'ai jamais vécu dans une maison moderne. Et j'ai l'impression que les maisons vivent et que les personnes qui ont vécu leurs histoires sont restées quelque part dans la maison.
Ce sont des ombres, des spectres, des fantômes ?
Pas d'une manière terrifiante ou quelque chose, mais ça leur donne un esprit, c'est l'âme de la maison.
Vous pensez à quelle maison en particulier ? Une maison dans laquelle vous avez grandi ou vous avez vécu ?
Je vis dans une maison assez vieille qui a peut-être 115 ans et avant ça je vivais dans une maison qui était encore plus vieille. Et à part des problèmes d'avoir de très vieilles maisons et beaucoup de travaux à faire tout le temps, ça a énormément de charme.
Ça veut dire, si je vous comprends bien, que les lieux ont une mémoire ?
Oui, je trouve que c'est possible.
Des histoires de fantômes, vous en avez déjà écrit, Daniel Steele, par le passé. Pourtant, dans l'introduction de votre livre, vous confessez ne pas les aimer,
non.
Les histoires de fantômes. Alors moi, j'avoue que ça m'a surpris.
Non, j'aime pas, parce que j'aime pas ces livres où l'homme tombe follement amoureux d'une femme qui existait il y a 200 ans. Il n'y a absolument aucun espoir qu'ils se retrouvent ensemble.
Il n'y a pas de matérialisation possible, effectivement.
Non, mais j'aime pas du tout ce genre de truc.
Vous savez, moi j'aime bien la figure du fantôme. Et je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai l'impression que le fantôme, il représente tout ce qu'il ne faut pas oublier. Tout ce qu'on peut pas oublier.
Peut-être. Ouais. Si je pensais vraiment aux fantômes, j'aurais peur. La maison dans laquelle je vivais avant avait la réputation de fantôme. Et j'avoue, autant que je voudrais pas y croire, il y avait des moments où on avait vraiment de mauvais sentiments dans cette maison.
Mais ça se manifestait comment ?
Oui, tout le monde qui passait du temps dans cette maison entendait des choses, pensait avoir vu quelqu'un au troisième étage, mes chiens réagissaient
parfois. C'est très mauvais signe, ça, oui.
Yeah, non, c'était pas agréable. Tandis que là, ce ne sont pas des fantômes désagréables. Et aussi, j'ai une théorie que les problèmes importants que nous vivons maintenant sont les mêmes problèmes qui ont existé entre les gens il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 2000 ans, parce que les mêmes choses nous inquiètent. Les voitures ont changé, la décoration et les vêtements, mais l'essence des histoires d'amour ou des histoires d'enfants ou ce qui nous inquiète ou de perdre un enfant ou un être aimé, toutes ces choses sont les mêmes, que ce soit maintenant ou il y a 100 ans.
Ça veut dire que vous entretenez un rapport avec le passé qui est très apaisé, Daniel Steele ?
Peut-être, oui, c'est possible.
Pourtant, vous en avez vécu des épreuves. Vous avez même écrit dessus. Je sais qu'un de vos livres vous hante particulièrement.
Oui, vous parlez du livre de mon fils.
Un rayon de lumière, ouais. En 1998.
Ouais.
Où vous racontiez la vie écorchée et la vie arrachée de votre fils atteint de troubles bipolaires.
Ouais.
C'est un texte qui a un sens plus fort que les autres.
Oui, ouais, c'était très personnel. Et je l'ai écrit parce qu'il était, comme souvent les bipolaires, un être extraordinaire avec beaucoup de talent. Et il était drôle, intelligent, très affectueux. On était très proches parce qu'il était malade toute sa vie. Alors, j'ai passé des épreuves avec lui. Et il était quelqu'un d'extraordinaire. Et il est mort à 19 ans. Et je voulais faire honneur à sa vie. Il est mort il y a presque 20 ans. Mais je voulais aussi partager, parce qu'à l'époque, personne ne parlait de troubles mentaux. On a établi une fondation, deux d'ailleurs, qu'on a toujours, pour les malades mentaux. Et les gens venaient me voir et me disaient en chuchotant, ma mère ou mon mari ou ma fille, les gens n'osaient pas en parler et ça les isolait. C'est extrêmement difficile d'aimer quelqu'un avec ses maladies. Si on est isolé là-dedans, c'est encore plus dur.
Qu'est-ce que ça a changé dans la romancière que vous êtes, Danielle Steele, ce livre ?
Bon, malheureusement, souffrir, ça fait mieux écrire, je crois.
C'est vrai ?
Oui. Dans toute la vie, on n'a plus de compassion si on a souffert, si on a eu une vie facile. On ne se rend pas compte tellement des problèmes des autres.
C'est passionnant ce que vous dites, parce que vous dites qu'en creux, l'écriture, c'est de la compassion, c'est de l'empathie.
Bon, ça devrait l'être. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, on lit un livre et on se dit vraiment totalement sans intérêt. Mais ça devrait, on devrait compatir quand même avec les gens et avoir une relation avec le lecteur.
Le futur, vous l'envisagez comment, vous ?
Oh là là.
Je vous pose la question parce que j'ai l'impression que ce qui vous fait avancer, ce qui vous tient en haleine, bah, ce sont toujours les livres à venir, tous ceux que vous n'avez pas encore écrits. En
fait. Ça, c'est vrai. L'avenir, je ne sais pas. J'ai des idées de ce qui me plairait, mais l'avenir n'est pas très fiable.
Pourquoi est-ce que vous écrivez, au fond ? Vous le savez ?
Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis obligée d'écrire. J'ai besoin d'écrire. J'écris plus ou moins tous les jours. Et si j'essaye de prendre un peu de temps entre les livres, au bout de 2 semaines, je suis malheureuse. Je tremble partout. J'ai besoin d'écrire. C'est un besoin.
On va reparler évidemment de tout cela juste après, puisqu'on parle de fantômes et d'amour. Une mélodie débridée, celle des Righteous Brothers en 1965 sur l'album Just Once in My Life, mais aussi dans la bande originale du film Ghost, ça s'appelle Unchained Melody. Vous êtes sur France Inter avec Danielle Steele. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
sur France Inter. Augustin Trapenard.
On est quelque part entre la version pastel d'une égérie Versace, relevée d'une pointe de Barbara Streisand et de Julianne Moore. Elle a la rousseur flegmatique, l'œil pierre précieuse, le sourire cluedo. Elle n'a rien à envier à ses héroïnes. On l'imagine à merveille au petit matin déambuler, en déshabillé de soie mauve, sur la terrasse d'un palace avec vue sur la baie de San Francisco, ou se promener avenue Montaigne avec ses 7 chiens, 3 chiots, échevelée mais pas trop perdue dans ses pensées imprévisibles, incendiaires, résolument tragiques, tout en rouge orangé ce matin avec ses boucles d'oreilles qui scintillent, la romancière Danielle Steel, invitée exceptionnelle de Boomerang pour ce nouveau livre plus que parfait, dans lequel vous laissez, comme souvent, la part belle au personnage féminin. Danielle, qu'est-ce que c'est pour vous une bonne héroïne de roman ?
Ah, quelqu'un avec beaucoup d'intégrité, beaucoup de courage.
Si votre vie était un roman, quel genre d'héroïne est-ce que vous seriez, vous ?
Embêtante. Ennuyeuse.
Ennuyeuse ?
Non. Non, mais je ne pense pas à moi quand je fais mes héroïnes. Je pense plutôt à des femmes que je respecte. Et il y a des héroïnes que j'écris que je n'aime pas.
Ah, c'est
finalement.
Vrai ?
Oui.
Pourquoi ?
J'aime pas ce qu'elles font, j'ai rien en commun avec elles, mais elles marchent dans l'histoire, mais ça m'arrive parfois de ne pas aimer mes héroïnes.
Alors je suppose que c'est plus difficile si l'écriture c'est de l'empathie.
Très difficile.
Donc ça vous arrive de dire « Ah non, j'arrive pas à avancer dans ce livre parce que je déteste l'héroïne ».
Non, j'avance quand même, mais je l'aime pas.
Quand vous étiez petite, Danielle Steel, quels étaient les personnages de fiction auxquels vous vous identifiez, ceux dont vous rêviez de vivre la vie ?
Oh, j'adorais les livres de Colette quand j'étais jeune.
C'est vrai?
Oui. Et, mais à part ça, j'aimais les livres de... Ben, j'aimais les héroïnes comme Jane Eyre. Et,
de Charlotte Brontë?
Oui, de Charlotte Brontë. J'aimais Little Women.
Les Cathy du Docteur March, de Louisa May Alcott?
Oui, exactement.
Quelle petite fille est-ce que vous étiez?
Oh, super sage et invisible.
Invisible?
Invisible. J'étais fille unique et j'ai grandi seule avec mon père. Et il menait une vie très mondaine. Et je regardais tout et tout le monde, mais je ne faisais pas partie de l'action. Et je crois que c'est à cause de ça que je suis devenue écrivain.
Et en quelle langue s'est faite votre découverte de la lecture ?
Au début en français, après en anglais pour un moment. Mais comme j'étais dans des écoles françaises, j'ai fait toute la lecture classique et... en classe et après.
Avec Colette ?
Avec Victor Hugo et Balzac. Et j'adorais les liaisons dangereuses de Laclos.
Je suis pas surpris.
C'était mon livre préféré. C'est vrai.
Pourquoi ?
J'adore les livres en forme de lettres.
À cause des relations très humaines, trop humaines entre les personnages aussi.
Peut-être.
Dans les liaisons dangereuses,
ouais,
je pense.
Oui, j'ai adoré. C'était tellement compliqué.
Vous avez grandi entre la France et les États-Unis, Danielle Steel. Cette enfance entre deux continents, deux cultures, en quoi est-ce qu'elle a fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui, à votre avis ?
Ben, ça a contribué. J'étais toujours beaucoup plus européenne. Mes parents étaient européens. Et j'ai passé plus de temps ici qu'en Amérique. J'ai passé très peu de temps en Amérique jusqu'à ce que j'étais mariée plus tard.
Aux États-Unis, vous étiez la française ?
Voilà. Là-bas, j'étais plutôt française. Ici, il y avait toujours une touche de l'Amérique. Mais j'ai vraiment pas vécu totalement aux États-Unis jusqu'à l'âge de 25 ans.
Et quel souvenir est-ce que vous gardez du Paris, de votre enfance ?
Ben, ça n'a pas beaucoup changé. C'est vrai, les gens disent toujours que ça a changé, mais je vais aux mêmes endroits maintenant. Je dansais comme une folle chez Castel à 15 ans et 16 ans et 17 ans, et ça existe toujours.
Vous y allez toujours, Daniel ?
Non, de temps en temps, pas très souvent.
Si vous c'est pour nous faire des confessions, on peut y aller. Hein.
Non, de temps en temps, mais très rarement maintenant.
Quand on est enfant et qu'on passe comme ça d'un pays à l'autre, d'un parent à l'autre, il arrive qu'on se sente seul, j'imagine.
Oui. Oui, ma mère est partie quand j'étais très jeune, j'avais 6 ans, et j'ai vécu seule avec mon père dans un monde, comme j'avais dit, très mondain et très célibataire, et en fait un univers d'hommes. Parce qu'il n'y avait pas de femme importante dans ma vie.
Vous diriez que la lecture vous a permis de vous sentir moins seule et de trouver cet univers de femme,
oui.
Justement ?
Pas tellement l'univers de femme, mais me sentir moins seule. Les livres étaient mes compagnons et mes amis. Et maintenant, écrire des livres sont mes compagnons et mes amis.
Et pour
les personnages dans mes livres.
Pour autant, dans quelle mesure le choix de l'écriture, ça a quelque chose à voir avec le goût de la solitude?
Oui, je ne sais pas si c'est un choix. Je ne sais pas si je l'ai choisi ou ça m'a choisi. On ne se sent pas seul quand on écrit.
C'est-à-dire que vous êtes
mais
avec
on est seul. Oui, ça bien sûr. Non, non, mais on n'est pas seul parce que son monde est complètement peuplé par les personnages. Quand j'écris pas, je me sens seule. Mais je me sens pas seule quand je travaille.
Et quand vous écrivez, comment vous vous sentez, justement?
Super bien. C'est comme voler. C'est vrai.
Libre, donc?
Pas nécessairement libre, mais surtout, ça me rappelle souvent faire du ski. Une belle descente. Et où tout se passe vraiment bien et on traverse la montagne. C'est un feeling très, très rare et très agréable.
Clairement, ça dépend qui fait du ski, parce que oui. Pour certains, c'est du chasse-neige et c'est pas exactement le même délire, Daniel.
Non, c'est pas pour moi non plus.
La liberté d'une femme, ça tient à quoi pour vous? Vous, pour qui l'émancipation des femmes était le grand sujet d'un roman, je me souviens, qui s'appelait Mise en scène.
C'est une question intéressante, parce que la liberté d'une femme, ça représente beaucoup de choses. Je n'ai jamais été ce qu'ils appellent en anglais « women's lib ». Je suis beaucoup plus vieux jeu. Ouais. J'avais un père très autoritaire. J'étais mariée avec deux hommes beaucoup plus âgés que moi, très autoritaires. Et je n'ai jamais vraiment eu de liberté. Et maintenant, je ne suis pas vraiment libre parce que j'ai énormément d'enfants, mais je n'ai jamais vraiment eu une liberté de femme jusqu'à très récemment.
Mais vous vous en êtes séparée de ces hommes quand même. Ça, il faut être libre pour ça.
Oui, oui. Mais je trouve qu'une femme peut être libre et avoir son indépendance sans faire de grandes déclarations qui énervent tout le monde.
C'est intéressant parce que vous êtes aujourd'hui la personne vivante la plus lue dans le monde, Daniel Steele. Entre nous, est-ce que vous vous sentez investie d'une mission auprès de vos lecteurs et lectrices?
La seule mission à laquelle je pense et qui est très importante pour moi, et ça m'a pris des années pour découvrir que c'était ce que je pensais ma mission, c'est de donner de l'espoir pour les gens qui se sentent seuls ou perdus ou pas compris, qu'ils retrouvent dans mes livres les mêmes situations qu'ils vivent et qu'ils trouvent le courage de surmonter les épreuves. Alors, si j'ai une mission, c'est de donner l'espoir aux gens.
Pour autant, vos livres se font rarement l'écho des remous du présent, de l'actualité sociale, de l'actualité politique. Et ça, c'est important. De quelle volonté est-ce que ça procède, ça?
Ben, je ne parle jamais de politique dans mes livres. J'évite le sujet à tout prix. Et la liberté de femme, c'est pas une mission pour moi. La liberté de l'être humain, la qualité de vie, tout ça, c'est important. Les relations entre personnes, que ce soit entre amis ou entre mes femmes ou entre parents et enfants, ce sont les relations, c'est la condition humaine et les relations humaines qui m'intéressent.
C'est ça en fait qui nourrit tout votre travail, toute votre vie aussi.
Oui, c'est
vrai. Les relations humaines.
C'est absolument vrai.
Ça serait un beau titre ça, pour la vie de Daniel Steele.
Oui, peut-être.
Merci Daniel Steele d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Plus que Parfait est publié aux presses de la Cité, qu'il vous donnera envie de vous blottir contre de vieilles pierres pour mieux les entendre parler et d'épater votre belle-sœur, votre mère, votre grand-mère et même votre père à Noël. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang ce matin. Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Martinery et Joséphine Dumoulin. Tout de suite les médias, juste après ça.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est ça. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas, ce que je vois, ça m'est en joie. Tu dessines des bonhommes, et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête. Je Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Tu le bêtes?
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie. Vous n'avez pas tout saisi, ce que vous avez compris. Le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas, ce que je vois, ça met en joie, tu fais planer des bagnoles, et toi tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.